L'évangile de Jean, chapitre 6. Je cabosse un peu le français, hein. Vous l'avez remarqué. Et la grammaire aussi. Jean, chapitre 6, verset 22. L'évangile de Jean, chapitre 6, verset 22, on ira au verset 29, et puis ensuite, après, on ira au verset 60. L'évangile de Jean, chapitre 6, verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit : « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Ils lui dirent : « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole, dirent : « Qui peut l'écouter ? » Jésus a dit : « Celui qui mangera ma chair et mon sang ne vivra éternellement. » C'est ce que Jésus avait dit précédemment. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit : « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui était ce qui ne croyait point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta : « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12 : « Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller ? » Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Amen. Jésus annonçait la bonne nouvelle. Et donc la bonne nouvelle, c'était quoi ? Jésus annonçait la possibilité de vivre, de connaître Dieu comme un Père, de pouvoir vivre une proximité avec Dieu. Il enseignait une manière de vivre qui était différente. Jésus parlait de cette manière-là. Et bien sûr, il préparait l'œuvre de la croix qui allait rendre possible cela. Et puis, il invitait à le suivre. Et il disait : « Toi, suis-moi, suivez-moi. » Il invitait chaque auditeur à le suivre. Chaque fois que Jésus invitait à le suivre, c'était vrai pour ceux qui étaient présents. Ça, pour certains, ça voulait dire de le suivre physiquement, mais nous comprenons que cette parole dépasse cela. Jésus le disait déjà d'une manière spirituelle. Il le disait, ça voulait dire « suivez-moi, acceptez ma parole, recevez-moi comme Seigneur, comme Sauveur, comme Berger ». Ça voulait dire cela. Bien évidemment, pour nous, c'est comme ça que ça résonne. Et ces paroles de Jésus, quand il nous dit « suis-moi, suivez-moi », nous savons qu'il est présent, il est esprit, et ça veut dire de le suivre en écoutant sa voix, en se laissant conduire par lui. Jésus lançait cet appel et il le lance encore, et il dit « suis-moi, suivez-moi ». Beaucoup de gens répondaient. Mais dans le passage que nous avons lu, à un moment donné, il va interpeller les personnes qui le cherchaient et qui le suivaient. Et il va leur dire : « Mais vous me cherchez pourquoi, vous ? Pour des miracles ? Parce que vous avez mangé du pain ?» Donc, dans cette interpellation, Jésus va les interpeller sur leur motivation, sur la raison pour laquelle ils cherchaient à suivre Jésus. Et je voudrais ce matin qu'on s'arrête dessus. C'est un message très simple, mais bien sûr, on veut tous suivre Jésus. Mais j'ajoute : suivre Jésus pour les bonnes raisons. Certains suivaient Jésus à cause du repas gratuit qu'il pouvait leur offrir. C'est ce qui s'est passé. Que s'est-il passé la veille ? La veille, beaucoup de gens s'étaient rassemblés, ils attendaient Jésus, ils l'ont vu, ils l'ont entendu toute la journée. Et le soir, Jésus va faire quelque chose d'unique, même s'il y aura une deuxième multiplication. Il va multiplier le pain, 5 pains et 2 poissons, et nourrir plus de 5000 personnes. Quelque chose d'extraordinaire. Ça valait le coup de voir ça, ça devait être quelque chose d'unique. Et on se met à la place de ceux qui ont vécu cette journée. À une époque où on travaillait, on était payé à la journée. Alors on se dit, ben demain, plutôt que d'aller là, si on peut à nouveau manger gratuitement, si on peut... Et finalement, c'est ce qui s'est un peu passé. Parce que le lendemain, il nous est dit, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il se rappelait que les disciples étaient partis en barque, Jésus les avait fait partir, mais Jésus n'était pas passé de l'autre côté. Alors ils sont revenus, ils l'ont cherché, et ils ne l'ont pas trouvé. Et ils ont pris le bateau pour passer le lac. Et ils l'ont trouvé de l'autre côté du lac. Vous voyez, ils l'ont cherché, ils l'ont suivi, et Jésus leur dit, mais vous me cherchez pourquoi ? Non pas pour des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain, vous avez été nourri. Et je crois que là, on touche quelque chose, on comprend cette raison. Et je voudrais dire, on sait que beaucoup sont venus au Seigneur parce qu'ils étaient dans la disette, parce qu'ils étaient dans la galère, ils avaient besoin d'un travail, et Jésus a pourvu. On comprend cela, mais ce que je voudrais dire, c'est que cette raison ne peut pas rester la première indéfiniment. Que je vienne au départ parce que j'ai rien, et j'ai besoin que le Seigneur me secoure, je suis endetté, je suis dans la disette sur le plan matériel, et que je vienne à lui, et que Jésus réponde, c'est normal, je vais le suivre pour ça. Mais que cette raison, cette motivation soit toujours la première, ça c'est un problème. Oui, on a un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et ça, j'aime le dire, dans une période de crise où des fois, on ne sait pas trop ce qu'on va devenir, on a un Dieu qui s'est engagé à pourvoir à nos besoins. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Et il pourvoit de manière naturelle, il va nous donner un travail. Et quand on est coincé, il est capable de faire du miracle. Par contre, il ne fait pas... Mais il est capable... Je me rappelle ce témoignage de cette sœur qui nous l'a dit après coup. Elle ne nous l'a pas dit avant, la coquine. Et elle était malade. Elle avait des problèmes de dos qui se compliquaient, donc ça veut dire qu'elle ne pouvait pas assumer son travail. Elle était prof de piano, donc c'était au niveau de la sécurité sociale, c'était assez compliqué parce que son contrat était bizarre. Et son mari est tombé malade aussi dans la même période. Et donc, ça voulait dire baisse de salaire. Et puis, vous savez, des fois, entre la prise en charge par la sécurité sociale, tout ça, vous avez des trous, des périodes, des carences. Et ça, on n'est pas toujours au courant, mais ça fait qu'à certains moments, le salaire ne rentre pas. Il n'y a rien qui rentre. Et ça, il ne nous l'avait pas dit. Donc, et nous, on n'avait pas été peut-être assez attentifs. Mais il s'était retrouvé à plusieurs fois. Elle avait fait sa liste de courses. Sauf que comme l'argent ne rentrait pas, elle ne pouvait pas aller acheter les courses. Et Dieu est grand. Et quelques amis un jour sont venus, des amis non chrétiens, parce que Dieu se sert même des non chrétiens. Ils sont venus et dit, tiens, on est venu vous voir, on a pensé, tiens, on a fait acheter des courses et on vous les a amenées. Et quand elle a regardé sa liste et les courses, c'était exactement la même chose. Dieu sait pourvoir à nos besoins. Et ça, on a la marque d'un grand Dieu. Il ne veut pas qu'on soit malheureux dans la disette. Il s'engage, j'insiste, à pouvoir à nos besoins. Mais attention, on ne suit pas Jésus uniquement pour la bénédiction matérielle. On ne suit pas Jésus uniquement pour qu'il nourrisse notre ventre. On sait qu'il pourvoit, mais ce n'est pas un but. Parce que si on est uniquement sur ces choses-là, on risque de déraper. Vous avez aujourd'hui un évangile qui fait mal, qui s'appelle l'évangile de la prospérité. Et dans certains pays où c'est un peu la disette, ça prend comme des petits pains, excusez-moi de prendre. Ouais, ça. Mais non, ce n'est pas un but. On a un Dieu qui s'engage à pourvoir à nos besoins. Et je crois que c'est bon de se le rappeler. Mais ça ne doit pas être la raison première. Certains suivaient Jésus parce qu'ils voulaient voir des miracles. C'est ce que Jésus leur dit au verset 26, quand il dit, non pas vous me suivez, vous me cherchez, non parce que vous avez eu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Jésus veut dire, D'habitude, on me suit pour voir des miracles. Ce coup-ci, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Mais la raison pour laquelle beaucoup suivaient Jésus, c'était pour voir des miracles. On comprend ? On ferait pareil. Ça devait être quelque chose de voir Jésus. Et si on apprend que Jésus passe à Annecy, on est tous là, on voulait le voir. Ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Mais je voudrais dire, par rapport à la notion de miracle, de miraculeux, parfois de spectaculaire. Le miraculeux, le spectaculaire, nous attire, c'est normal. Mais attention à ne pas être attiré dans n'importe quoi et à n'importe quel prix. Dans Acte 8, on a un homme qui épatait la galerie en Samarie. Il s'appelle Simon, l'ex-magicien, le magicien. Et il étonnait son monde par des actes de magie. Il y avait une réelle puissance derrière. Il y avait quelque chose. Et il avait une emprise sur les personnes. Et puis lorsque Philippe est arrivé, il a prêché Jésus. Et il y a eu aussi une démonstration d'esprit et de puissance. Il y a eu des miracles. Il y a eu des signes. Il y a eu de belles choses. Et immédiatement, ces gens se sont tournés. On sent chez ces Samaritains une attraction pour le puissant, pour le miraculeux, pour le surnaturel. Je dirais, quelque part, on a raison. Mais attention. Attention, parce que ça aussi, ça peut être dangereux. Hein. Ça peut être, quelque part, après, on voit que ça. Et je ne sais pas comment ces Samaritains ont tourné, mais si je me dis, si 15 ans après, ils étaient uniquement là, le jour où il y a moins de guérison, le jour où il y a moins de miracles, qu'est-ce qu'on devient ? Vous savez, le miraculeux, ça des fois agit par vagues. Il y a des vagues et puis ça revient. Et quand la vague, elle est au creux, comment on réagit ? Jésus faisait des miracles, mais d'abord des miracles qui répondaient aux besoins. Quand c'était pour satisfaire la curiosité, il n'en faisait pas. Quand Jésus a eu faim, il n'a pas changé les pierres en pain. Quand Jésus a eu faim, il est allé voir le figuier, il l'a séché, mais il n'a pas fait pousser des figues. Et il a séché le figuier pour faire passer un message aux disciples, hein, pour les enseigner. Pour ça, le figuier ne lui avait rien fait. Je crois que c'est bien de se le rappeler, mais je dis attention, parce que je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs surfent un peu là-dessus, là, sur le puissant, sur le surnaturel. Et ils essayent. Et si dans mon cœur, il y a un appétit excessif pour ces choses-là, je peux me faire avoir. Je peux me faire amorcer. Je peux me faire harponner. Et là, je dois veiller là-dessus. Vous avez des... Si j'ai dans mon cœur est logé quelque part à cette recherche de ça, je peux déraper. Je dis bien, on croit au miracle et on veut le proclamer. Et que Dieu nous en donne. Hein, que Dieu puisse nous donner de voir une démonstration d'esprit de puissance. Ce pays, nos églises ont besoin de cette grâce de Dieu. Mais attention à ne pas vouloir les rechercher absolument, voire même à les fabriquer. Il y a quelques années, il y a 25 ans, vous avez entendu parler du réveil de Toronto, de la vague de Toronto, pour certains. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique un petit peu. Mais c'était quoi ? Eh bien, c'est-à-dire qu'on croyait finalement dans des manifestations bizarres. Alors on pensait qu'on pouvait faire des bruits d'animaux, on confondait le parlant-langue et des bruits d'animaux. On pensait que sur les mains, il pouvait y avoir des paillettes d'or. Alors, certains se mettaient à rire un petit peu de n'importe comment. On pensait que les jambes pouvaient pousser. Enfin, ouais, on avait des choses un petit peu comme ça. Mais voilà, on en arrivait des fois, peut-être qu'au départ, il y a eu quelque chose, mais là, ça a complètement dérapé. Mais pourquoi on en est arrivé là ? Je me dis des fois, on a tellement soif de surnaturel que si on ne l'a pas, on le fabrique. On le favorise, on prend. Et vous avez des gens, si vous en voulez, je vous en donner. Et là, il faut veiller là-dessus. J'avance un petit peu, mais la soif, c'est bon. C'est important de travailler dans notre cœur, avoir soif des choses de Dieu, avoir soif de l'action de l'Esprit, avoir soif de la grâce de Dieu qui se manifeste. Mais attention, la soif, ça peut me piéger. Parce que si je n'ai pas à boire de l'eau, je vais boire n'importe quoi. Vous voyez, on trouve ça dans le désert. Quand le peuple a soif, des fois, ils vivent des choses extraordinaires. Mais la soif, elle les a amenés des fois à commettre des fautes et des écarts. La soif, c'est quelque chose qui est important. J'ai besoin d'avoir soif de Dieu. Si quelqu'un a soif, quelqu'un me disait récemment qu'il a été baptisé en Saint-Esprit quand il l'a désiré. Donc la soif, c'est important. Mais attention, attention. Il y a une troisième catégorie. Alors ça rejoint la précédente, mais elle est plus... C'est ceux qui suivaient Jésus pour être guéris. Eh oui. Ils ont été nombreux à chercher Jésus pour être guéris. Alors à cette époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas... la communication, c'était plus compliqué. Comment on faisait? J'étais malade, je suis paralytique et j'apprends que Jésus est à Jéricho. Alors j'essaie d'y aller à Jéricho. Mais quand j'arrive à Jéricho, on me dit que Jésus est monté à Jérusalem. Eh bien voilà, j'essaie de suivre un petit peu, d'essayer de rattraper Jésus dans son parcours. Vous voyez, les gens faisaient comme ça des kilomètres pour arriver auprès de Jésus avec leur fardeau, avec leur maladie. Et ce qui est formidable, c'est que chaque fois qu'on vient auprès de Jésus, il n'y a jamais quelqu'un qui est reparti avec son problème. Et ça m'interpelle toujours. Mais je crois que c'est, on a un Dieu qui guérit. Et même là, si aujourd'hui on n'a pas autant de guérison qu'à une certaine époque et comme on en voudrait, on veut proclamer que Dieu guérit. On veut proclamer que la croix, elle a des signes et qui sont Jésus a dit en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Et on veut donner à Dieu la possibilité de manifester des guérisons au milieu d'eux. Même si on n'en voit pas assez, moi je veux continuer d'annoncer ce message. Et je veux proclamer, mais je voudrais dire ceci, suivre Jésus pour être guéri ou pour être en bonne santé n'est pas une raison suffisante. Ça ne doit pas être la raison première. Vous savez, en début d'année, on dit quoi? Meilleur vœu et bonne santé. Et des fois, surtout la santé. Et parfois, certains chrétiens sont un petit peu comme ça, surtout la santé. J'insiste, et on a un Dieu qui est capable de choses étonnantes. Sur Vienne, on avait une mamie qui a fait les 100 ans là, au mois de février. Et c'était quelqu'un. Mais quand j'allais la voir, elle me disait, mais pourquoi j'ai ça comme problème de santé? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Mais elle avait des problèmes de santé mineurs pour 100 ans. Elle avait du mal à manger, elle n'entendait pas bien. Ouais. Je dis, mais vous avez 100 ans? Oui, mais c'était, elle aurait voulu qu'elle soit comme à 20 ans. Il faut. Je dis que la motivation, la première, ne doit pas être la guérison ou la santé. Il ne faut pas être omnibulé. Oui, on a un Dieu qui guérit. Et quand je suis malade, quand il y a un problème de santé, mon premier réflexe doit être d'aller vers le médecin, le grand médecin, celui qui peut tout. Oui. Mais il faut accepter quelque part pourquoi. Parce que tôt ou tard, on sera confronté à des problèmes de santé. Il y a une loi qui est inscrite dans notre corps. C'est la loi du vieillissement. Eh oui. On n'y échappe pas. Et même si Dieu est capable de temps en temps de changer cela, on n'échappe pas au rhumatisme, à l'arthrose. Et même si Dieu est capable de faire grâce à ce niveau-là, attention. Mais on n'échappe pas à la loi du vieillissement. Et puis des fois, la guérison, elle ne vient pas. Elle tarde à venir. Je pense à une personne qui a été malade pendant 10 ans. Et un jour, dans une réunion d'évangélisation, elle a senti que c'était le moment. Elle est allée à l'imposition des mains. Elle a été guérie. Pourquoi 10 ans après? Il n'y avait rien qui avait changé. Des fois, il y a des choses qui nous échappent. Et puis des fois, il n'y a pas de guérison. Alors, il n'y a pas d'explication. Mais dans notre théologie, c'est important d'intégrer que des fois, ça puisse arriver. Il faut accepter autant, je veux proclamer que Jésus guérit, autant il faut intégrer qu'il y ait cette réalité-là. Mais je reviens, il ne faut pas que je sois omnibulé par ma guérison. Je pense aussi à quelqu'un qui a été guéri cet été, l'été dernier, ça fait maintenant 1 an. Et pendant 2 ans, il a eu des douleurs au dos. Des problèmes de dos qui sont compliqués, qui l'ont empêché de travailler. Et il nous a dit ceci, c'est pour ça que j'ai retenu. Il m'a dit, finalement, j'ai été guéri quand j'ai commencé à plus prier pour ça. Quand j'ai un petit peu cessé à être focalisé sur ma guérison. Ça m'a interpellé. Et c'est vrai que... Mais parfois, certaines personnes ne voient que par ça. Je je pense à une autre personne, où elle est focalisée sur son problème de dos, sa guérison, et elle est prête à faire tous les prédicateurs qui passent de Navarre là pour espérer avoir la guérison. Elle est toujours sur Internet, aller voir les prédicateurs qui parlent là-dessus. Et moi, je lui ai tenu à un moment donné ce discours, j'ai envie de dire, consacre-toi peut-être plus au Seigneur, occupe-toi de l'œuvre de Dieu, et peut-être que Dieu s'occupera à un moment de tes affaires. Parce que des fois, si ça ne vient pas simplement en exerçant la foi, eh bien, continue d'avancer sur le chemin. La guérison, elle est des fois sur le chemin. Intéressant, là, je sors de mon sujet, hein, mais des fois, vous avez des aveugles, ils ont été guéris comme ça, et puis d'autres, il a fallu qu'ils prennent le chemin. Des fois, il faut avancer sur le chemin. Il y avait aussi ceux qui suivaient Jésus parce qu'ils aimaient l'écouter. Écouter Jésus en live, ça devait être quelque chose. Je pense toujours aux deux disciples d'Emmaüs. Quand Jésus leur a expliqué tout ce qui le concernait dans l'Ancien Testament, s'il y a une prédication que j'aurais voulu écouter, c'était celle-là. Parce que là, vous avez, après, pour comprendre l'Ancien Testament, c'était super. Mais écoutez, cette journée, ils ont passé la journée à écouter Jésus, la veille. J'ai écouté Jésus, du matin jusqu'au soir. Ça devait être passionnant. Jésus, ce n'était pas comme les pharisiens. Les pharisiens, c'était lourd. Mais l'enseignement de Jésus, c'était frais, c'était pertinent. Il y avait la grâce, ça faisait du bien. C'était quelque chose d'unique. Et on disait, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et ça, on comprend. Beaucoup l'écoutaient. Ah, ils étaient enthousiasmés, ils partaient. Et puis, ils rentraient chez eux. Et c'est là où ça peut changer. Certains devaient dire, on a entendu des choses superbes. Et puis, quelques jours après, les faits redescendaient. On devenait un petit peu comme des auditeurs oublieux. Je crois que des fois, il faut faire plusieurs différences. On fait des fois la différence entre entendre et écouter. Écouter demande un effort. Mais la Bible aussi, elle fait la différence entre écouter et mettre en pratique. Et Dieu est catégorique. Pour que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu puissent me transformer ce que j'entends, j'ai besoin de le mettre en pratique. Et ça, c'est pas facile. Hein. Pourquoi des fois on entend des choses, on dit c'est bien, mais on n'arrive pas à faire le passer dans le concret. Ça, c'est vraiment important. La Bible insiste pour que ce que j'entends de la parole de Dieu, je le mette en pratique. Si c'est une promesse, eh ben je la prends, je l'intègre dans ma foi et j'en tiens compte. Si c'était une vérité, eh ben je l'intègre. Par exemple, Dieu me dit, il ment jamais, il triche pas. Eh ben je garde ça dans mon cœur et je vais construire ma vie dessus. J'ai un Dieu qui ne triche pas, un Dieu qui ne ment pas. Ça peut être aussi une parole qui me dit, là il faut faire du ménage. Là il y a quelque chose qui ne va pas, change ta manière de parler. Ah, et là ça fait, et ben là aussi il faut y aller. Hein. Alors des fois on bataille, des fois, mais il faut y aller. La mise en pratique de la parole de Dieu, c'est quelque chose d'essentiel. Et parce que si je ne la mets pas en pratique, je vais être un auditeur oublieux. Et puis surtout, il y a l'effet aussi émotion qui redescend. Lorsqu'on vient les premières fois dans une église évangélique, on sent la présence de Dieu. Là, on découvre, on sent des choses. Le Seigneur nous parle. Et puis des fois, cet effet il redescend après. Parce que faut pas oublier, à un moment donné, il faut mettre en pratique. Et je ne suis pas le Seigneur uniquement pour écouter, pour vivre un peu d'émotion, mais je suis le Seigneur pour l'écouter et mettre en pratique ce qu'il me dit pour pouvoir me transformer. L'écoute sans mise en pratique, vous savez ce que ça peut faire aussi? Ça peut faire quelqu'un qui a du mal à entendre la vérité, et quelqu'un qui va avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Parce que comme j'entends, finalement après je sélectionne un peu dans mon écoute. Et ça c'est dangereux. Je ne sais plus quand j'ai commencé. Si nos motivations à suivre Jésus se limitent à ça, je vais ressembler à certaines personnes de la Bible. Si c'est uniquement sur un but matériel, pour que Dieu me bénisse, si c'est que pour la santé, pour le goût du surnaturel et du miraculeux, si c'est uniquement pour l'écouter, pour vivre des émotions, mais pas la mise en pratique, ça peut faire quoi? Eh bien, ça peut faire que je vais suivre Jésus, mais pas partout. Ça va être un peu à la carte du self. Sauf que le self et la carte, ça ne marche pas avec le Seigneur. Quand Jésus apprend que Lazare est malade, les deux sœurs lui envoient un texto. Votre frère est malade, viens, rejoins. Jésus prend son temps, mais il y va. Mais quand vous lisez le chapitre 11, vous voyez que les disciples, ils n'ont pas envie d'y aller. Ils bronchent, ils murmurent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en Galilée, au bord du lac. Il fait beau, il y a la pêche. C'est la famille là-bas. Mais quand ils descendent en Judée, ça chauffe. C'est tendu. Et c'est de plus en plus tendu. Plus on se rapproche de la croix, plus c'est tendu. Les disciples, ils n'ont pas envie d'y aller. Mais Jésus, d'ailleurs, leur dit, mais il faut y aller, quoi. Il ne leur laisse pas le choix, il ne les laisse pas décider. Si, autrement, des fois, on peut suivre Jésus jusqu'à un certain point, dès que ça devient un petit peu trop dur, ça nous demande trop, hop, on démissionne. Vous vous rappelez, certains, un jour, à dire à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Et on sent bien que la réponse de Jésus va vite le calmer, Les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Ça veut dire en clair, si tu es prêt à me suivre, tu ne dormiras même pas au Formula, mais tu risqueras des fois de dormir dehors. T'attends pas au confort 3 étoiles. C'est ça que j'ai. Et là, on sent qu'avec ça, il a dû le calmer. Mais ouais, si finalement je veux certaines choses, je risque de. Certains suivaient Jésus en secret. On pense à Joseph d'Arimathée. Mais alors là, attention. Joseph d'Arimathée fait partie des 70 personnes du Sanhédrin. Pas n'importe qui. On peut comprendre qu'ils le suivent en secret. Et on ne va pas blâmer. Ce que je voudrais dire, c'est que ça ne peut pas rester indéfiniment comme ça. C'est quelque chose d'important. Des fois, on arrive avec nos grands sabots. Il faut que tu te manifestes, il faut que tu te positionnes. Des fois, il faut. Dans l'assemblée où nous étions à Vienne, il y avait 10 maghrébins dans l'église à peu près. Et tous, ou quasiment tous, ils étaient dans un contexte d'adversité dur. Et je pense à un jeune qui venait, il venait du quartier et il venait en cachette au culte. Et surtout que sa famille ne le voit pas. Parce que si sa famille voit, ça allait être compliqué. Alors nous, on pourrait dire, il faut te positionner pour Jésus, mais après, il faut l'aider, si sa famille le met dehors. Et des fois, il faut attendre que ce soit le moment de Dieu. Dans certains cas, il faut une certaine sagesse. Et respecter aussi un petit peu et laisser d'abord le travail en profondeur. Une semence, il faut qu'elle fasse son travail dans la terre. Puis à un moment donné, elle va sortir. Mais il ne faut pas essayer de la sortir trop tôt. Si on tire dessus, elle va... Et puis, il y en a un qui a suivi Jésus de loin. C'est Pierre. Alors, c'est dans un contexte précis. Quand Jésus a été arrêté, il nous est dit que Pierre suivit de loin. Mais quand on suit pour certaines raisons que j'ai évoquées, on suit Jésus de loin. Mais Jésus, on suit de près. On le colle. On ne le lâche pas. Comme Paul dira à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma constance, etc. Et nous, Jésus, on veut le suivre de près. Et puis, il y a ceux qui suivaient Jésus parce qu'ils l'avaient reconnu comme le Sauveur, comme le Messie et surtout comme le Seigneur. Et là, j'insiste, cette différence, elle est ô combien importante. C'est bien de suivre Jésus comme le Sauveur. Il est celui qui a pardonné nos péchés. Il est celui qui a donné sa vie sur la croix. Et c'est important de saisir ce message-là. Quelqu'un a besoin de le saisir ce matin. Et dire, Seigneur, je crois que tu as donné ta vie pour moi. Je suis un pécheur et j'ai besoin du pardon. Mais rappelons-nous qu'on suit Jésus comme Sauveur. On le suit aussi comme Seigneur. Seigneur, ça veut dire, Seigneur, tu domines dans le ciel. Mais tu domines là, tu domines sur mon cœur, tu es celui qui décide, tu es celui qui conduit toutes choses. Il y a quelques années, dans une pastorale, il y a un don spirituel qui m'a marqué. Alors il disait à peu près ceci. Il disait, ça s'adressait à quelqu'un, il disait, tu as écrit sur une feuille tout ce que tu veux que le Seigneur fasse. Et tu tends ta feuille et tu dis au Seigneur, signe. Mais le Seigneur te dit, signe en bas une feuille blanche et tends ta feuille. Et ce don spirituel m'a toujours marqué parce que je trouve qu'il était très bien dit. Mais ce n'est pas la même chose. Nous, on serait plutôt à écrire plein de choses. Seigneur, tu peux signer là. C'est autre chose, mais j'ai envie de dire à Jésus, t'es Seigneur, c'est accepter qu'il puisse me faire passer par des chemins qui ne sont pas ceux que j'avais prévus. Accepter que ben, ce n'est pas ce que je voulais, ce que je désirais. Ça va contre ma volonté première. Mais quand il y a conflit entre ma volonté et celle de Dieu, c'est celle de Dieu qui doit s'imposer. Et ce n'est pas toujours facile, hein, on est tous les mêmes. Mais nous suivons Jésus. Ah, moi j'aime cette déclaration de l'apôtre Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Saint de Dieu. Hein, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie. Ça veut dire, tu es le prince de la vie, celui qui donne la vie, celui qu'il faut suivre. Quelle est belle cette déclaration. Et combien on veut la serrer dans notre cœur. Voilà la motivation qui doit être dans notre cœur. On suit Jésus parce qu'il est notre sauveur. Et parce qu'il est notre Seigneur. C'est notre raison première. Les autres sont valables, plus ou moins. Mais voilà pourquoi on veut le suivre et le serrer. Il est Seigneur. J'aime beaucoup ce texte de Romains chapitre 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses, tu donnes à Jésus la seigneurie, je trouve que c'est Jésus, il est Seigneur. Et quand dire à Jésus qu'il est Seigneur, c'est pas seulement le dire, hein, ça veut dire lui laisser les droits sur nos vies. Et ça, c'est pas facile. Hein. C'est tout un apprentissage. Hein. Mais déjà, dans la position, combien c'est important. Je termine simplement en posant cette question. Pour quelles raisons suivons-nous Jésus? Pour quelles raisons je suis Jésus? Uniquement pour qu'il me bénisse sur un plan matériel? Alors moi, je veux, c'est ma bénédiction. C'est pour voir des trucs, c'est pour de l'émotion. Non, je le suis parce qu'il est mon sauveur et il est Seigneur sur ma vie. On a un grand sauveur, un merveilleux Seigneur. Il est digne d'être suivi. Alors c'est vrai que des fois son chemin ne sera pas toujours celui que j'avais tracé. Hein. Il y a décalage des fois, mais le bon c'est le sien. Hein. Et avec du recul des fois on se dit heureusement que je ne me suis pas entêté. Hein. Et j'ai bien fait de te laisser mener. Des fois Dieu nous éprouvera. Et le but de l'épreuve aura ce but-là, c'est finalement à asseoir la seigneurie de Jésus sur nos vies. Mais il est Seigneur, et je veux qu'il règne sur mon cœur. Et c'est ce que je vous... On va prier le Seigneur.